Comment nos communautés peuvent devenir des lieux de grâce pour nous et pour le monde, à la lumière de l'enseignement de Léon XIV. Bon, ça fait très chic. Je voudrais réfléchir sur nos communautés. Alors, ce matin, on a réfléchi sur le frère. Mais vous voyez, on nous demande souvent de réfléchir sur nos communautés, notamment toute la démarche du synode. C'était nous dire, prenez vos communautés, qu'est-ce que vous avez à en dire? Et on pourrait avoir une tentation qui est de se dire, qu'est-ce que moi je vais changer dans ma communauté? Et moi j'appelle ça la tentation de la chef de M. Seguin. Alors je vous explique pourquoi. La chef de M. Seguin, vous connaissez, Alphonse Daudet. Je suis de Marseille, alors c'est mes références, j'ai appris ça à l'école primaire. Ah, qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin. Et puis après, j'ai oublié la suite. Mais l'histoire de la chèvre de M. Seguin, c'est une chèvre qui est bien traitée par M. Seguin. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle a de l'herbe verte sous les pieds. Et puis comme elle se plaint, il lui allonge sa corde. Et puis il la met dans un enclos agréable, etc., etc., etc. Elle ne manque de rien. Et pourtant, elle regarde vers la montagne, elle se dit « Ah, comme l'herbe doit être plus verte là-haut. Ah, comme c'est mieux ailleurs. » Eh bien, le « ailleurs, c'est mieux », c'est la phrase du démon de la chèvre de M. Seguin. Et je voudrais exorciser ce démon avec vous. « Ailleurs, c'est mieux. » Tous, nous sommes tentés par ce démon-là. Ailleurs, c'est mieux, c'est dans le foyer de Blagnac, moi qui suis au Sable d'Olonne, c'est mieux. Ça, c'est pour les communautaires. Si j'étais dans un autre foyer, je serais bien. Si j'étais dans un autre diocèse, je serais mieux. Si moi j'étais chartreux, ça c'est la tentation du missionnaire, si j'étais chartreux, je serais un saint. Et le chartreux, il se dit, si j'étais missionnaire en Afrique, vraiment, alors là, je serais bien. Et le mari, il se dit, ah, si j'avais épousé une autre femme, je serais bien. Et la femme, elle se dit, ah, ben, si j'avais pas eu ces enfants-là, mais les enfants de ma voisine, je serais bien. Ah, si on avait un autre curé, je serais bien. Et puis, ça peut aller loin. Hein. Ah, si on avait un autre évêque, ah, si on avait un autre pape, ah, si on a... voilà, tout ce que vous voulez. Et vous voyez, c'est le démon, ailleurs, c'est mieux. C'est un démon d'illusion, comme tous les démons. Il commence par l'illusion pour nous emmener sur une terre d'illusion et nous faire croire que nos communautés ne sont pas ce qu'elles devraient être et que du coup, il n'y a rien à faire. C'est la faute à la communauté. C'est la faute à la paroisse. C'est la faute à... voilà. Et vous voyez, j'aimerais inverser cette approche, la convertir. Une conversion, c'est un retournement. Saint Augustin explique ça. D'habitude, quand je parle de la conversion, je prends un gant de toilette. Là, je n'en ai pas pris. Pour visualiser ce qu'est un retournement. Un retournement d'un gant de toilette, imaginez que je mette un gant, mais je le prends et je le retourne. Et là, dans cette démarche de « c'est la faute de la communauté, c'est la faute de l'évêque, c'est la faute du pape, c'est la faute de ma sœur, de ma responsable, de mes frères, de tout ce que vous voulez », il y a quelque chose qui a besoin d'être retourné. Et vous voyez dans le titre qu'on avait donné à ce carrefour, c'est « Comment nos communautés peuvent devenir des lieux de grâce pour nous, pour moi ?» Et en fait, il aurait fallu dire « Comment ma communauté est aujourd'hui déjà un lieu de grâce pour moi ?» Et pas « Comment elle pourrait devenir un lieu de grâce si on me donnait le pouvoir et que j'en faisais ce que je voulais ?» Grosso modo, pour caricaturer. Et vous voyez... J'aimerais qu'on commence juste par nous retourner le cœur, là, en commençant ce petit topo. C'est de dire, qu'est-ce que ma communauté me donne aujourd'hui? Et non pas qu'est-ce qu'elle devrait me donner, qu'elle ne me donne pas. Et en fait, on ne fait pas le cahier des doléances face à une communauté. Et souvent, dans les groupes synodaux, il faut éviter cette tentation du cahier des doléances, de dire tout ce qui ne va pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des trucs que tout va bien, hein, et qu'il faut pouvoir dire ça, ça ne va pas. Mais il faut déjà se dire, ce n'est pas moi qui sauve l'Église, c'est l'Église qui me sauve. Ce n'est pas moi qui sauve ma communauté, c'est ma communauté qui me sauve. Ce n'est pas moi qui sauve ma paroisse, c'est ma paroisse qui me sauve, etc. Donc, première chose, moi je vous invite à faire un petit temps de louange en disant ben, de quoi puis-je louer Dieu pour les diverses communautés dans lesquelles je suis inséré. Est-ce que je peux louer Dieu pour mon frère, pour ma sœur, pour ma responsable, pour mon curé, pour mon évêque, pour mon vicaire général, pour voilà. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a toute une liste qu'on ne voit plus. C'est la chef de M. Seguin. Elle a l'herbe sous les pieds. Et elle se dit, ailleurs, c'est mieux. Là-haut, sur la montagne, c'est mieux. Sauf que la petite chef de M. Seguin, quand elle part sur la montagne, elle se fait manger par le loup. Et quand on se dit « je quitte la communauté où je suis parce qu'ailleurs c'est mieux », on est en danger. Donc voilà, premier point, l'herbe verte est sous mes pieds. Donc rendons grâce pour ce que mes communautés, ma communauté m'apporte déjà. Et en particulier, y a une communauté pour laquelle j'en suis absolument sûr, c'est l'Église. Et je vous disais ce matin... On ne peut pas vivre dans ces jours où il y a des ruptures dans l'Église, des schismes. On ne peut pas vivre ça comme si rien ne se passait. Ce n'est pas possible, on doit en souffrir. Et donc se dire, mais qu'est-ce qu'on est bien dans l'Église ? Qu'est-ce qu'on est heureux dans l'Église ? Il y a des tas de trucs qui ne vont pas, mais qu'est-ce qu'on est heureux dans l'Église ? L'Église, ce n'est pas le lieu où on doit être, mais on est mal parce qu'on est avec d'autres qu'on n'aime pas. Voilà, on est heureux dans l'Église. Et pourquoi ? Ben, d'abord parce que l'Église, elle est une, sainte, catholique et apostolique. Alors on le dit dans le credo le dimanche. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est une ? Vous allez me dire, ah ben, si elle était une, ça se saurait. Ça ne veut pas dire déjà qu'elle est uniforme. Mais elle est une comme Dieu est un. Or Dieu est trois personnes dans l'unité d'un seul Dieu, d'une seule substance. Donc dans l'Église, on est un, pourquoi ? On est un d'abord parce qu'on participe au même Dieu. Et vous voyez, on parle souvent des divisions, on parle souvent de ce qui nous oppose, on parle souvent des luttes. Alors les Français, ils aiment bien. Hein. Les Français, quand on est trois, on fait des courants, quand on est quatre, on fait une scission. Donc, vous voyez, on aime bien faire des clans, puis dire ce qui nous oppose les uns aux autres. Dans l'Église, il y a une chose qui nous rassemble, c'est Dieu lui-même. Et vivons-en. Alors, je vous propose déjà de choisir de contempler, comme un objet de contemplation, d'émerveillement et d'action de grâce, l'unité de l'Église. Faites-le tout à l'heure à la grotte. Allez à la grotte. Regardez les gens qui passent à la grotte. Et vous, c'est pas possible que tous ces gens-là soient un. C'est dingue. C'est une blague. Il y a des Espagnols. Des Espagnols, on va les vaincre au foot le 14 juillet. Et pourtant, on est côte à côte à la grotte. On peut se parler. Il n'y a pas beaucoup de lieux où... des ennemis comme ça peuvent se parler, s'aimer. Ben dans l'Église, on peut. Dans l'Église, je peux dire que les Espagnols, qui sont mes ennemis au foot, sont mes frères à la grotte. Si je vais à la grotte, je suis avec des gens qui parlent des langues que je ne connais pas, qui ont des cultures que je ne connais pas. Je les rencontrerai dans la rue, j'en aurai peur. Regardez la tête des gens. Dites-vous, je rencontre cette personne à 22h ou à 23h dans une rue, je change de trottoir. À la grotte, je suis avec eux, je me mets à genoux avec eux, nous sommes frères. Ça, c'est l'unité de l'Église. Donc, rendons grâce pour l'unité de l'Église, parce que l'unité de l'Église, ce n'est pas nous qui la construisons, nous la recevons de Dieu. Vous voyez, si nous devions la construire, on ferait du travail de coaching, du team building, comme on dit, de la construction d'équipe. Alors ça se fait, hein, c'est une technique. Mais ce que ça produit, c'est une unité humaine. On n'est pas là pour ça. Moi, me sentir bien avec vous, pardonnez-moi, j'en ai rien à cirer. Je ne suis pas là pour ressentir quelque chose avec vous. Ça vous déçoit peut-être, hein, mais tant pis. Par contre, je suis là pour recevoir de la Trinité ce qui nous relie les uns aux autres et qui est plus fort que la mort. C'est le même amour de Dieu. Saint Augustin dit, cette phrase, moi, qui chaque fois me donne des sanglots dans la voix, « Dieu a voulu qu'il y ait entre nous le même amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Le même lien qu'il y a entre le Père et le Fils, qui est l'Esprit Saint, nous l'avons entre nous. Ce qui me relie à vous, c'est ce qui relie le Père et le Fils dans l'éternité. C'est l'Esprit Saint. » Vous voyez, imaginez qu'on voit la présence de l'Esprit Saint, on verrait un réseau de liens entre nous, là, et on se dirait, mais c'est le même lien qui unit le Père et le Fils dans l'éternité, cet esprit d'amour qui est comme le nœud. Saint Augustin, il dit, c'est à la fois un nœud et un baiser, une étreinte. Complexus, le Père et le Fils se prennent dans les bras par l'Esprit Saint. Eh bien, nous nous prenons dans les bras. C'est ce qu'on fait à la paix du Christ. Mais la paix du Christ, c'est un signe. Ce qui compte, c'est que quand nous regardons les uns les autres, nous nous aimons dans l'Esprit Saint. Donc vous voyez, nous recevons l'unité, nous n'avons pas à la construire. Alors en revanche, on a quelque chose de différent à faire, qui est de vivre en vérité, de faire passer dans les faits une unité qui est déjà là. Et notre erreur, c'est de dire... On va conquérir l'unité, on va mettre en place des techniques, on va changer les choses. Alors on fait des plans pastoraux, on fait des programmes. C'est bien, hein, ça occupe, ça permet d'occuper les chapitres. Voilà, dans les paroisses, on passe beaucoup de temps à ça. C'est pas le principal. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Si vous rentrez et que vous dites à votre curé ça a rien, il va pas être content. Mais ce ne sont que des moyens pour nous faire expérimenter ce qui est déjà là. Souvenez-vous, la chef de M. Seguin, elle a l'herbe sous les pieds. Comment faire pour s'en rendre compte et non pas pour aller chercher ailleurs? Voilà. La vraie question, c'est comment faire pour nous rendre compte que l'herbe verte est déjà sous nos pieds, c'est-à-dire que la communauté qui nous sauve, elle est déjà donnée. Elle n'est pas ailleurs plus tard. Elle est maintenant ici. Donc voilà, l'unité d'abord. Ensuite, la sainteté. Ça aussi, vous voyez, souvent on se dit, il faut que nous devenions des saints. C'est vrai. C'est vrai. Et nous le désirons tous. Mais la sainteté, elle nous est déjà donnée. Elle nous est donnée substantiellement au baptême. Et elle nous est donnée dans les moyens. Nous avons les sacrements. Qu'est-ce qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous identifie à Dieu, qui nous permet de vivre unis à lui? Ce sont les sacrements. La sainteté nous est donnée par les sacrements qui nous relient au cœur du Christ. Et donc, voyez, allons pas imaginer pour nous un programme de sainteté. Ça, dans la vie spirituelle, c'est souvent la tentation. Je me fais un programme de sainteté. Alors, on peut faire un plan de vie, c'est très bien. Mais la sainteté, elle m'est donnée substantiellement chaque fois que je communie. Je reçois le Saint des Saints. J'ai juste à vivre conformément à ce que j'ai déjà reçu. Et donc la sainteté nous est déjà donnée. Quand je dis que l'Église est sainte, je ne dis pas l'Église. Je vais rendre l'Église sainte par ma propre sainteté. Je dis que l'Église, elle est sainte substantiellement par les sacrements. Elle est structurée par les sacrements qui la rendent sainte. Elle est catholique. C'est-à-dire qu'elle est universelle. Et alors ça, je voudrais insister. Donc universelle, ça voudrait dire qu'il faut que je m'adresse aux uns, aux autres, que je sois par toute la terre, que je parte au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie. Non, comment être catholique? Eh bien, en vivant un esprit d'Église là où je suis. Je réalise la catholicité de l'Église en faisant en petit ce que l'Église est en grand. Donc en faisant une communauté locale qui a vraiment un esprit ecclésial. Et alors elle sera ouverte au monde entier. Vous voyez là aussi, Souvent, on se dit, comment faire pour être ouvert à l'Église universelle? Alors, on imagine, on va regarder un film sur les missions au Paraguay. On va s'intéresser aux catholiques persécutés en Chine. Tout ça, c'est très, très bien. Mais je suis catholique comment? En vivant là où je suis, une communauté de frères et de sœurs unis autour de l'Eucharistie. C'est ça qui m'ouvre au monde entier, qui dilate mon cœur aux dimensions du cœur du Christ. Donc, une sainte, catholique et apostolique. Apostolique, alors, ça ne veut pas dire forcément missionnaire. Dans le credo, quand on dit apostolique, c'est relié aux apôtres. L'Église dont je vis me met en relation avec les apôtres. Et c'est ça qui m'envoie en mission. Et donc, comment être envoyé en mission? Comment aller vers le monde entier? Eh bien, en tenant la main des apôtres. Je tiens la main des apôtres comment? Eh bien, en recevant des apôtres et de leurs successeurs, qui sont les évêques, la foi catholique. J'ai pas besoin d'aller chercher au fond de moi une initiative, des initiatives missionnaires. J'ai besoin d'entrer dans ce qu'on appelle la tradition, avec un grand T, pas les traditions, la tradition, qui est ce processus de transmission de la foi de génération en génération. Si je reçois la foi de mon évêque, de l'Église, lui-même, il a été ordonné évêque par un autre évêque, qui a été ordonné évêque par un autre évêque, qui a été ordonné évêque par un autre évêque, jusqu'à un apôtre qui a été ordonné évêque par le Christ. Vous voyez, je tiens la main du Christ à travers cette chaîne et j'entends la parole du Christ qui me dit « Allez enseigner toutes les nations ». Voilà, ce n'est pas moi qui suis à l'initiative, ce n'est pas moi qui suis le moteur de l'évangélisation. Le moteur d'évangélisation, c'est le Christ qui me parle par l'Église, qui me parle par les évêques et qui me dit « Allez enseigner toutes les nations ». Donc vous voyez, chaque fois que je dis « Je croise en l'Église une sainte catholique et apostolique, j'exorcise le démon de la chef de M. Seguin. » Et je dis, j'ai là, dans l'Église, tout ce qui est nécessaire, tout ce dont j'ai besoin. Ma communauté ecclésiale me sauve. C'est dans cette communauté que je suis nourri, que je suis porté, que je suis sauvé. Et pour moi, le moment où le Seigneur nous le révèle dans l'Évangile, c'est la tempête apaisée. La barque, c'est évidemment la figure de l'Église. Et les apôtres disent « Sauve-nous, Seigneur, nous périssons !» Et combien de fois on a envie de dire « Sauve-nous, Seigneur, je péris, nous périssons, ma paroisse périt, mon église périt, mon diocèse périt, mon foyer périt, etc. Voilà. Sauve-nous, Seigneur, nous périssons. » Et que fait le Seigneur? Il dort. Il dort. Et il nous dit, homme de peu de foi, ne savez-vous pas que je suis avec vous dans la barque? Si le Seigneur est dans la barque, que crains-tu? Et vous voyez, comment faire pour que nos communautés soient des lieux de grâce? Ben, la seule chose à faire, c'est est-ce que le Seigneur est avec nous dans la barque? Si oui, la communauté est un lieu de grâce. Après, elle a plein de défauts, ma communauté. Elle a plein de limites. Mais alors, des grosses limites. Dans la barque, pendant la tempête apaisée, il y avait les apôtres. Il y avait donc Judas. Judas était dans la barque. Et Jésus n'a pas dit, bah oui, il y a la tempête parce qu'il y a un traître qui va me livrer, mettons-le par-dessus bord. Ça, c'est nous. On se dit, si la communauté ne va pas bien, c'est à cause de lui. Il faut le virer du bateau. Et ça ira mieux quand il ne sera plus là. Alors, lui, c'est... de temps en temps, c'est le curé, de temps en temps, c'est le responsable, mais de temps en temps, c'est le frère, c'est la sœur. Et c'est objectivement vrai qu'il est pénible. Vous voyez, parfois on se dit, ça serait quand même plus simple si un tel n'était pas dans le groupe. Ça serait plus simple à organiser, etc. Donc oui, il y a des gens pénibles dans l'Église. Mais ces gens pénibles, ces gens qui nous sont à charge, n'empêchent jamais une communauté de me sauver, d'être pour moi le canal de la transmission de la grâce de Dieu. Et vous voyez, c'est réjouissant. C'est réjouissant parce que, en fait, on se dit, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller courir le monde pour aller chercher ailleurs. J'ai pas besoin de faire la chef de M. Seguin. J'ai pas besoin de partir sur la montagne. J'ai pas besoin de changer de femme, de mari, d'enfant, de communauté, de supérieur. Là où je suis, j'ai la grâce. En revanche, c'est la deuxième partie là, que j'aimerais développer, c'est comment faire pour que cette grâce rayonne ? Comment faire pour que ma communauté soit le visage du Christ, comme une nouvelle incarnation du visage du Christ ? En fait, comment faire pour qu'en voyant ma communauté, les gens qui sont autour puissent se dire « Dieu est là, Dieu habite là, Dieu sauve à cet endroit-là. » Alors, vous voyez, on a, là aussi, on a plusieurs tentations. On se dit, il faudrait que nous fassions des miracles. Il faudrait qu'on ait des charismes de guérison spectaculaires. Et là, les gens verraient que le Saint-Esprit est là. Et plus on désire ça, moins le Seigneur les donne. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de se dire... Bon, là, Seigneur, il faut que je sois efficace. Il faut que les gens en aient plein la vue. Donc, donne-moi ta puissance. Puis on le dit avec sincérité. Hein. Donne-moi ta puissance pour terrasser les démons, pour guérir les cœurs, pour déchaîne ta puissance. Et le Seigneur nous donne quoi ? La brise légère. Il ne se passe rien. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai plus de charisme ? Pourquoi j'ai plus de puissance ? Ou j'avais une grâce de prédication, puis là, ça tombe à l'eau. Ce que je faisais avec efficacité, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Où es-tu, Seigneur ? As-tu déserté la barque ? Non, il dort, mais il est là. Alors, comment faire pour que les autres qui sont autour vois le visage du Christ dans ma communauté. Comment faire pour que ma communauté soit comme une, comme dirait Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît, une nouvelle incarnation pour le Christ ? Parce que c'est ça l'Église et toutes les communautés ecclésiales. C'est pour le Christ une manière de continuer son corps. Quand les gens voyaient le Christ passer, ils étaient attirés. Quand ils voient nos communautés, sont-ils attirés ? Et nous, souvent, nous disons, non, on a une sale gueule. Donc, ils sont pas attirés. Alors, réponse humaine, on va passer chez l'esthéticienne. On va se refaire une beauté. On va se relooker. On va prendre un communicant. C'est la même chose. Un communicant, c'est une esthéticienne. Au fond... Vous voyez, l'esthéticienne, elle fait quoi ? Je n'y suis jamais allé, hein, mais j'imagine qu'elle vous refait du maquillage, les cheveux, les ongles, je ne sais pas quoi. Hein. Alors pour moi, les cheveux, c'est trop tard. Mais vous voyez, elle vous donne un joli visage, une jolie apparence. Un communicant, il fait pareil. Il prend des bonnes photos, plutôt avantageuses. Il fait un bon site internet, un compte Instagram... c'est une esthéticienne des médias. Et nous, on se dit, ça va marcher. Et voyez, on est dans la logique de plaire. Non pas de faire rayonner, mais de plaire. Et si on veut plaire, le danger, c'est que ce n'est pas le Christ qui va plaire, c'est nous. Et le Christ accepte de passer par des communautés qui ne plaisent pas au monde. Regardez la Pentecôte. Que se passe-t-il quand Pierre prêche « Ce Jésus que vous avez crucifié, nous vous annonçons qu'il est ressuscité. » Qu'est-ce qu'on lui dit ? Je traduis, c'est une traduction libre. « Eh garçon, t'as pas un peu forcé sur la bouteille ?» On dit « Ils sont pris de vin. » C'est la traduction jolie. C'est-à-dire, ils ont picolé. Donc les Juifs, à ce moment-là, se disent, les apôtres qui annoncent le Christ, En fait, ils ont juste un peu forcé sur la bibine. Ce sont des poivreaux. Donc la première impression qu'a produit l'Église dans l'histoire de l'Église, au moment où les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, c'est une communauté de poivreaux. Ils ont picolé. Ils ont un peu trop picolé à midi. Alors, et en même temps, le Saint-Esprit parle à chacun dans son cœur. Et donc, vous voyez, il y a il y a toujours les deux à la fois. Pauvreté, pauvreté humaine, et efficacité du Christ. Donc ne cherchons pas à être des communautés efficaces. Ne cherchons pas à être des communautés qui plaisent. Ne cherchons pas à être des communautés qui ont du succès. Ça, c'est vraiment la logique, notamment des réseaux sociaux, où il faut avoir des likes, il faut avoir des followers, il faut plaire, il faut faire du chiffre. Osons être pauvres. Osons avoir des communautés qui sont humainement pauvres, donc qui ne sont pas belles à voir. Imaginez une communauté âgée, de gens âgés. C'est pas beau à voir. C'est pas dans les canons de la beauté. Il y a des rides. On n'entend pas bien. Voilà. Vous voyez, nous, moi, j'appartiens à une communauté qui, pendant longtemps, il n'y avait pas de personnes âgées dans ma communauté. Et il y a un côté, tout va bien, on est tout puissant. Les photos sont belles, on s'adapte vite. Et puis on a les premiers pères qui sont âgés, où il faut leur répéter les choses plusieurs fois. On leur dit rendez-vous à 14h, et puis ils disent « Ah, c'est à quelle heure ?» Voilà, ils n'ont pas compris. Ou « J'entends rien, la boucle ne marche pas, il faut parler dans le micro. » Vous voyez, il y a plein de petites choses, des pauvretés humaines. Ben là, pourquoi le Seigneur permet qu'on ait des pauvretés dans nos communautés ? Pour manifester sa puissance. Parce que s'il y a des fruits, alors que le canal qui transmet est pauvre, alors il n'y a pas de risque qu'on nous attribue les fruits. Parce que justement, on voit que nous, on est pauvres. On dit, ces fruits-là, ils viennent de Dieu. Vous voyez, plus il y a une disproportion entre la fécondité spirituelle et l'efficacité humaine, plus on est certain que l'origine de ces fruits, c'est Dieu lui-même. Et il y a pour ça une purification des communautés. Vous voyez, je pense que beaucoup de communautés nouvelles ont vécu des crises. On a découvert des abus, on a découvert des abus spirituels, des abus sexuels. Et tout d'un coup, on s'est dit, en fait, on est pauvre. Ma communauté que je croyais toute puissante, elle est pauvre. Alors notre tentation, c'est de dire, alors c'est pas la bonne communauté, faut que je change, faut que j'aille chercher une autre communauté puissante. Rassurez-vous, dans 20 ans, elle sera pauvre. Et il faut s'en réjouir, parce que maintenant je peux dire, ma communauté qui est pauvre, elle produit du fruit. Donc je suis sûr que ce fruit vient de Dieu, puisque ma communauté, elle ne peut pas le produire par elle-même, puisqu'elle est pauvre, puisqu'elle est composée de pécheurs, puisqu'elle est composée d'abuseurs. Et même ces abuseurs, ils ont du fruit. Parce que ce qu'ils ont prêché, ce n'était pas eux, c'était le Saint-Esprit. Et c'est le mystère. Vous voyez jusqu'où Dieu s'abaisse. Il accepte que la parole des abuseurs soit féconde. Alors quand je dis ça, je tremble, parce que c'est enregistré. Mais moi, c'est l'expérience que j'ai. J'ai parfois été touché profondément par la parole de prêtres, dont j'ai appris après que c'était des abuseurs. Pourquoi ? Parce que leur parole n'était pas leur parole, c'était la parole du Saint-Esprit. Et dans la mesure où ils prêchaient l'Évangile, leur parole de pécheur était le canal que Dieu avait choisi pour toucher mon cœur. Et donc, n'ayons pas peur de nos pauvretés. Vous voyez ? Réjouissons-nous, non pas du péché. L'abus, il faut le traquer, il faut le purifier. Mais il faut surtout le regarder en face et se dire, ce n'est pas parce que ma communauté est pauvre et elle est pleine de pécheurs qu'elle n'est pas le canal de la grâce de Dieu. Arrière, esprit maudit de la chèvre de M. Seguin. Et je voudrais vous, vous racontez l'histoire. Alors, c'est dans un livre de Bernanos, où Bernanos compare, face à la pauvreté de l'Église, face au péché des hommes d'Église, la réaction de saint François d'Assise et de Luther. Luther dit, voilà une Église pleine de richesses, pleine de gens intéressés par l'argent, qui vendent les indulgences. Eh bien, je vais affronter cette Église et je vais la réformer. Le résultat, c'est la division, c'est la coupure d'avec Dieu, c'est la coupure d'avec l'Église. Saint François d'Assise dit, voilà une Église pleine de pécheurs, pleine de richesses, pleine de prélats qui ne sont occupés que de remplir leur coffre et leur bourse. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vivre dans la pauvreté et l'humilité. Ils font le même constat, le même diagnostic, mais ils ont deux réactions opposées. C'est exactement ce que sainte Mère Teresa disait. « Qu'y a-t-il à changer dans l'Église ?» Elle répondait « Toi et moi. » Et vous voyez, je voudrais que vous vous disiez « Qu'y a-t-il à changer dans ma communauté ?» Alors sûrement plein de choses, mais finalement c'est des détails. Ce qu'il y a d'abord à changer, c'est toi et moi. Et quand on se plaint de sa communauté, quand on en voit les limites, la première chose à faire, c'est de se dire « Qu'est-ce que moi je peux faire ?» Non pas pour changer la communauté, mais pour me convertir, pour me retourner, pour me changer. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour mieux aimer mes frères et mes sœurs ? Et vous voyez, c'est un retournement comme un gant. Hein. On change la perspective. On se retourne littéralement. Donc, je vous propose ça. Chaque fois que nous serons agacés par un aspect d'une communauté dans laquelle on vit, religieuse, paroissiale, ecclésiale, peu importe, de se dire... Qu'est-ce que je peux changer, moi ? C'est comme dans un couple. Hein. Quand on est agacé par l'autre, souvent, on vient nous voir, on nous dit « Mon mari est insupportable. » Je dis « Ah bon, très bien. Qu'est-ce que vous comptez faire ? » Ben, vous ne pourriez pas lui dire qu'il change ? Je dis, vous savez, moi, tant qu'il ne vient pas me voir, je ne peux rien faire. Par contre, vous pourriez peut-être faire un pas. Vous voyez, si moi, je change... L'autre va changer. Mais j'ai à faire comme Dieu vis-à-vis de nous. Il nous aime en premier. C'est toujours lui qui fait le premier pas. Donc, pour que ma communauté change, moi, j'ai un pas à faire. Ça, j'en suis sûr. Est-ce que ma communauté changera ? J'en sais rien. Mais que moi, je change, ça changera profondément mon cœur. Et peut-être, de cœur en cœur, ça changera les choses. Donc, ça, c'est le premier point. Donc... accepter que c'est moi qui dois faire le premier pas et qui dois changer. Le deuxième point, je parle, bon, ça va, encore quelques minutes. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est donc Léon XIV qui a dit « Toute réforme de l'Église a un double critère. Premier critère, Actes des apôtres, chapitre 4, verset 32, c'est la règle de toute réforme ecclésiale. Tout était commun entre eux, ils avaient un seul cœur et une seule âme. » Et donc, si l'Église va mal, si ma communauté va mal, je me dis « Ah, est-ce que nous avons un seul cœur et une seule âme ?» Et si je ne vais pas vers là, je suis sûr que mon projet de changement, de réforme, il va faire du mal. Et c'est un critère, c'est, étymologiquement, c'est ce qui permet de trier. En grec, krino, c'est trier. Donc, ce qui va me permettre de trier mes idées, c'est est-ce que ce que je propose va vers plus d'unité ? Si la réponse est non, je suis sûr de me planter. Je vais faire plus de mal que de bien. Même si ce que je propose est bien, en soi. Mais si ça apporte de la dissension, alors j'ai mon critère de tri me fait dire que ce n'est pas la bonne réponse. Le deuxième point que souligne Léon XIV, c'est « Toute réforme de l'Église commence par une réforme du cœur. Ne croyons pas que c'est les structures qui font changer les cœurs. Ça n'a jamais marché. Ce sont les cœurs qui font changer les structures. On a besoin des structures. Hein ? On a besoin des structures. » Pourquoi ? Pour protéger les cœurs. Voyez, on a besoin, dans une communauté religieuse, on a besoin d'une règle pour protéger des cœurs qui se sont donnés à Dieu, pour maintenir l'élan de consécration. Mais c'est Bernanos encore, c'est dans le dialogue des Carmélites, qui dit, c'est la prieure qui dit à Blanche de la Force, ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. S'il n'y a pas des cœurs qui se donnent, où vous avez beau avoir toutes les structures les plus magnifiques du monde, en droit canonique et tout, vous aurez un arbre sec et creux. Et Benoît XVI allait jusqu'à dire, plus il y a d'administration, moins il y a de la place pour l'Esprit Saint. Pour l'Esprit Saint. Et vous voyez, lui qui était allemand, il savait ce que c'était. J'ai des amis en Allemagne qui me disaient, tu sais, maintenant chez nous, même la lectrice du dimanche, elle est payée. Pour faire le service de la lecture est rémunéré. Et il me disait, ben en fait, il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint dans notre Église. Parce que tout est... Justement, on a tout pris en main. On en a fait une structure administrative bien huilée. Mais on a peur de l'Esprit Saint. On a peur de ce que Dieu pourrait nous dire. On maîtrise tout. Alors, je ne dis pas qu'il faut que ce soit le bazar. Hein. Enfin, le pape François disait quand même de temps en temps qu'il fallait mettre du bazar. Un petit peu de désordre à la marge. Ça fait toujours du bien. Voilà, ça nous rappelle que ce n'est pas la structure qui remplace la vie. Et puis le troisième point moi, que je voudrais souligner, c'est que une communauté, ce n'est pas d'abord une belle structure, c'est une multitude de petits détails. Regardez dans une communauté familiale. Quand vous êtes invité dans une famille, pour nous prêtres, on le sait bien, comment vous goûtez ce qui fait le cœur de cette famille ? On ne vous donne pas le règlement intérieur quand vous rentrez. Enfin, j'ai jamais eu ça. Vous voyez. Le père de famille qui me dit, voilà le règlement intérieur de notre famille. Article 1, on enlève ses chaussures pour marcher sur le tapis du salon. Article 2, on dit merci madame. Article 3, on se couche avant 23 heures. J'ai jamais vu ça, grâce à Dieu. Par contre, on voit une multitude de petits détails. On s'assoit et puis il y a quelqu'un qui nous dit « Ah, vous voulez un verre d'eau ?» On se sent accueilli. À table, on voit que les uns et les autres s'écoutent, qu'il y a de la bienveillance, qu'on rit ensemble. À la prière, il va y avoir de la délicatesse, on va avoir un petit moment de louange, un moment d'intercession. Une communauté crée une ambiance, une expérience de Dieu par l'incarnation des petits détails. Et ça... Ça demande la foi. C'est exactement ce que le Seigneur nous dit dans la parabole du grain de Senevé. C'est la plus petite des semences et pourtant c'est la plus grande des plantes potagères, enfin, peu importe la traduction. C'est-à-dire, on a un grain de Senevé, c'est gros comme une tête d'épingle à peu près. Et on sait que de ce petit truc-là va jaillir la vie d'un buisson qui peut faire des 3, 4, 5, 6 mètres. Et vous voyez, si on veut le transposer, parce qu'on n'en voit pas des grains de Senevé tous les jours, prenez un gland. Un gland, c'est moche, ça sert à rien. Il paraît que ça, on le donne aux cochons, on sait ça par l'Évangile. Si les enfants font des collages avec des glands pour la fête des pères, voilà, c'est la seule utilité que je connaisse aux glands. Et par contre, on voit un chêne. Voilà, un chêne, c'est beau, c'est majestueux, c'est puissant. Et nous, dans la vie, on veut être des chênes. Et bien souvent, on est des glands. Pardon. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur nous dit, ne rêve pas de conquérir le monde si déjà tu aimais ton frère qui est à côté de toi. Et vous voyez, c'est ces petits détails. Si je souris au petit déjeuner, je suis en train de réformer ma communauté. Peut-être plus efficacement qu'en faisant une proposition pour le chapitre général. Si je rends service gratuitement, si je mets de la joie, si je chante à un moment où c'est compliqué, si je ne perds pas ma bonne humeur alors qu'on s'est trompé de route et qu'on va arriver en retard. Vous voyez la situation, hein, on est en voiture, dépêche-toi, la messe est à 10 heures. On est parti en retard, donc déjà le père de famille, il est dans la voiture. La prochaine fois, je partirai sans vous. Enfin, c'est pareil dans les communautés. Hein. Et tout le monde arrive, on dit, oh, on va être en retard, on est un peu tendu. Et puis, on se trompe de route. Tension maximale. C'est toujours pareil, etc. Machin, on s'engueule. Voilà, voilà. Vous voyez la scène. Alors nous, quand on célèbre, on voit arriver la famille juste avant l'évangile, un peu tendue. On se dit, tiens, cela, le voyage en voiture a été compliqué. Le premier gamin qui fait le moindre petit pleur, il va tout prendre pour les autres. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire là pour cette famille? Est-ce qu'il faut dans la voiture dire, à partir de dorénavant, on partira 10 minutes plus tôt, peut-être. Mais si dans cette famille, il y en a un qui dit, bah, puisqu'on est en retard, si on louait le Seigneur, bah, ils vont arriver le cœur ouvert et ils n'auront pas perdu leur temps. Et vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais nous n'avons pas assez la foi pour accorder de l'importance aux détails dans la vie communautaire. Et une vie communautaire, c'est une vie de détails. Et ça, il faut le demander à la Vierge Marie. Vous voyez, elle qui, à Cana, dit « ils n'ont plus de vin ». Il fallait une femme pour voir. Elle a dû voir un petit peu d'agitation là, chez les serviteurs. Ils se parlent entre eux, puis voir « tiens, le vin coule moins ». Ils n'ont plus de vin. Ben, voilà, c'est une grâce maternelle et féminine de soigner les détails. Et l'Église a une âme de mère, a une âme de femme. Et c'est particulièrement important pour les prêtres de s'en souvenir. Vous voyez, la tentation du prêtre, c'est de partir dans les nuages, dans les belles idées. Et il nous faut des femmes qui nous disent « redescends sur terre. T'as dit merci, tu as souri. » Tu as soigné les détails. Est-ce que tu as mis une fleur devant la statue de la Sainte Vierge aujourd'hui? Ça va peut-être plus toucher les âmes que ton topo de tout à l'heure. Donc voilà, osons soigner les détails dans l'Église. Et pour ça, il faut avoir une vue de foi sur les détails. Je suis sûr que vous connaissez déjà l'histoire des trois tailleurs de pierre. Mais vous savez, on voit trois tailleurs de pierre et au premier, ils font exactement le même geste. Le premier, on lui dit « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « je tape avec mon marteau sur mon burin ». Il fait matériellement le geste. Le deuxième, il dit « je suis en train de tailler la clé de voûte ». Il a déjà un peu plus de... Il voit un peu plus haut. Et le troisième, qui fait le même geste, il dit « je bâtis une cathédrale ». Eh bien, dans nos communautés, si, voilà, moi, en communauté, si je fais la vaisselle, après le repas de midi, ben, je peux dire « je fais la vaisselle parce que les autres se sont barrés ». Je peux dire « je fais un acte de charité parce que je suis prieur et que voilà, c'est mon devoir d'État ». Et puis je peux dire « je bâtis une cathédrale ». C'est-à-dire « je permets au Seigneur d'habiter une communauté ». Je fais le même geste, mais mon cœur est différent. Et c'est vrai en famille, quand on s'occupe des enfants, et c'est vrai en paroisse, quand on fait des photocopies, on passe un coup de balai, etc., etc. Voilà, appliquez-le au plus petit détail de toute vie communautaire. Et vraiment, vous bâtirez des cathédrales. Et nos communautés seront des cathédrales. Et vous savez, des cathédrales, il y en a de tout style. Ou des églises, il y en a de tout style. Vous avez Notre-Dame de Paris, c'est grand, c'est beau, tout le monde la voit, c'est merveilleux, il y a des vitraux. Puis vous avez la petite église de campagne. Il y a des communautés, c'est des petites églises de campagne. Mais la petite église de village, elle est tout aussi belle que Notre-Dame de Paris. Et puis, il y a des communautés, c'est rococo, vous savez, comme dans les églises allemandes, avec des petits anges partout, des couleurs dans tous les sens. C'est pas grave. Il y en a, c'est des églises plus modernes. C'est la basilique Saint-Pédis, c'est austère, c'est la poésie du béton. Mais dans toutes nos communautés, si Dieu est au centre, si on soigne les détails, alors il y aura un signe qui ne trompera pas, c'est la joie, c'est le chant. Quand dans une communauté, on chante le Seigneur, alors c'est qu'on est à sa place. Et justement, quand on chante, on est obligé de chanter ensemble. Vous voyez, c'est si vous mettez le Seigneur au centre, vous avez envie de le chanter, du coup, vous vous mettez à la bonne place. Chacun part pas, vous ne pouvez pas chanter chacun un chant différent. Ça peut être du chant en langue, mais même ça, le Saint-Esprit fait que ça s'accorde. Vous quand on chante ensemble le Seigneur, alors le Seigneur fait que la communauté prend corps. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour qu'une communauté ait le visage du Christ, il suffit de mettre le Seigneur au centre, de soigner les détails et de le chanter. Et alors nous formerons un seul corps, et ce corps sera une continuation du corps de Jésus. Il sera un corps blessé, un corps meurtri, parfois un corps sanglant, mais c'est un corps qui sauve, comme le corps de Jésus nous sauve parce qu'il est offert au Père sur la croix. Amen. Bon, il faut qu'on chante, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on va chanter ? On va prendre un chant de louange. Allez, j'ai pas d'inspiration. Qui a une inspiration ? Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tout bienfait. Sois loué, toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Voilà, que notre bouche chante sa louange dans nos communautés, pour qu'on puisse ensemble chanter un jour dans la communauté du ciel à jamais sa louange. Amen.